Salut, ici c'est Jim Degedin, vous écoutez Nike Radio.
On est de retour à Prends ton gaz égal, Michel T. Dallaire avec vous et on s'en va vers notre chronique automobile qui est une présentation du garage Charlebourg Certipro au 514 boulevard Louis XIV à Québec, mécanique générale dans l'automobile recommandée CA et certifié clé verte, frein, suspension, direction, échappement, climatisation, inspection, entretien et pneus et plus encore. Nous sommes des experts entre autres dans les marques Subaru, Volvo, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi et j'en passe. Garage Charlebourg Certipro, on vous le dit, c'est votre auto entre bonnes mains. Hey, Christian Duval, bonjour.
Salut Michel.
Comment ça va?
Ben ça va bien. Toi, t'es-tu trop courbaturé?
Ah, écoute, j'ai mal partout, mais c'est un bon mal. Tu sais, quand on se donne ou qu'on se brise le dos ou qu'on se fait mal pour les bonnes raisons.
C'est ça. Ben, tant mieux, c'est bon ça. Bon, mais regarde là, c'est drôle aujourd'hui, là. J'hésitais entre deux choses, là, outre ton histoire de déménagement, parce que toi, t'avais comme pas le choix. Fait que là, mais je suis en train de me rendre compte que dans mes sujets, j'en ai un qui est quasiment sur hold dans la population. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté d'autres choses que ma suite sur les pneus. La dernière fois qu'on s'est parlé, on avait parlé de pneus.
Oui.
Puis là, ben, je me rends bien compte que théoriquement, les pneus, présentement, c'est interdit de faire quelque chose avec ça à cause du COVID. Donc, j'ai une petite partie qui est en lien avec des stratégies financières pour les autos là, en général, pour ceux qui vont peut-être subir, on va dire, les foudres du système ou de l'économie qui est en train de s'écrouler. Parfait. Donc, j'ai comme deux mini-dossiers aujourd'hui, étant donné que les pneus, ben, c'est un peu sur pause.
Ouais, c'est un peu sur pause, mais malgré tout, la petite partie de sujet que tu vas parler sur ça est quand même quelque chose qui m'intéresse.
Donc, oui, ben ça date de loin, c'est comme une vieille, il y a comme, pas de mythe, c'est comme une habitude qui avait été faite, qui est faite dans le temps, que certains ont encore. Puis, je parle de garder ses pneus d'hiver pour les finir, là, les user pendant l'été. C'est quelque chose que certains font encore. Techniquement, c'est vraiment pas conseillé. Par contre, dans le temps, c'était vraiment récurrent. Là, c'était un classique. Tu sais, les grands-parents le faisaient. Mes parents l'ont fait. C'était une façon d'économiser. Tu sais, on se faisait dire par... un mécanicien, ouais, je pense que tes pneus d'hiver sont pas bons pour la prochaine hiver. Puis le réflexe des gens, c'était, ah, ben dans ce cas-là, laisse-les sur le tour, je vais continuer de les user cet été. Mais le concept de base de ça, dans la façon qu'on fonctionne sur la route aujourd'hui, c'est plus vraiment logique parce que ça a changé quand même pas mal. Une des premières choses, c'est que le pneu, en général, il y a vraiment une différence de conception assez grande. Puis aujourd'hui, sur la route, le portrait a changé. Puis c'est facile à savoir parce que, je veux dire, quelqu'un qui plonge dans ses souvenirs, si vous essayez de reculer dans le temps, vous allez vous rendre compte que la densité de circulation sur les routes a changé. Je me souviens de mes premières années quand j'ai commencé à rouler à Québec pour notre part. C'était vraiment très, très, très fluide. Ben écoute, je dirais pas que c'est comme aujourd'hui parce que là, les routes sont désertes, là. Mais disons entre les deux. Donc, il y avait vraiment quelque chose de... Tu sais, il y avait une liberté, mais au sens propre, on était libre de tasser de voie, on n'était pas dans le trafic, il y avait beaucoup plus de d'espace. Donc, côté sécurité, côté auto, côté stress de la vie, puis côté vitesse à laquelle on doit évoluer ou réagir à ceux qui freinent à l'avant de nous, c'était vraiment plus facile. Donc, forcément... on pouvait se permettre d'avoir une auto qui n'était pas à la seconde à la performance au poil près, puis c'était pas si grave que ça. Donc, les anciens mœurs, c'était d'essayer d'utiliser au maximum chacun des derniers morceaux de caoutchouc. Ça, je peux comprendre, c'était logique. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, on roule chaque auto, écoute, l'espace entre les bumpers, les gens sont stressés, ça va vite, on roule, c'est cordé comme des sardines. Ben aujourd'hui, le pneu d'hiver que vous roulez en été pourrait être un nouveau problème. Dans notre cas, un pneu d'hiver, c'est fait pour rouler en dessous de 7 degrés Celsius. En haut de ça, dans le fond, tout ce que je vous dis, là, c'est l'inverse de ce que je vous dis à l'automne. Tu sais, quand on vous dit, ouais, en bas de 7 degrés, pensez à mettre vos pneus d'hiver, nanana, nanana. Aujourd'hui, je fais carrément l'inverse. Ce que je vous dis, c'est que passé une certaine période, il commence à faire chaud. L'asphalte est chauffé en permanence par un soleil qui devient ardent. Puis, ben, le bitume est toujours chaud, puis en plus, il y a toute la chaleur qui est accumulée par votre façon de rouler. Donc, en roulant, le pneu s'élève en température. Il devient très chaud, même que des fois, il peut devenir à 80, 90 et plus degrés Celsius. Fait que c'est beaucoup. Ce pneu-là, il n'est pas fait pour ça. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une gomme qui est molle, il est moins réactif, puis il prolonge de beaucoup la surface, pas la surface, la distance de freinage. Donc, ça compte, ça, là. Je veux dire, s'il vous reste, si vous doublez la distance, puis c'est ce qui vous aurait évité l'accident, bien, comprenez-moi, ça serait triste qu'un simple pneu pas changé puisse vous créer un accident qui va vous créer tout un processus de sécurité pour vous, de danger, de déclaration d'assurance, etc. Donc, vous comprenez où est-ce que je m'en viens.
Parce qu'on est un des rares pays, d'ailleurs, aussi, des rares endroits au Québec où ce qu'on a 75 degrés de différence entre le plus froid de l'hiver et le plus chaud de l'été.
Oui, ben, mettons, si on parle d'écart, je ne sais pas tout le Canada, je n'ai pas tout fait les comparatifs, mais au Québec, l'écart est très, très, très large. Puis, je pourrais dire que ce soit dans le coin de Montréal, Québec et plus haut, là, est-ouest, là, je veux dire, le Québec en général, les écarts entre la canicule d'été puis la vague de froid d'hiver, oui, elle est vraiment intense, puis c'est un peu pas notre marque de commerce, mais ça nous définit d'une certaine façon comme étant un climat particulier.
À l'époque, ouais, on avait, excuse-moi, l'ancien célèbre 4 saisons qu'on appelait, mais mm-hmm, lui, il ne nous permettait pas non plus de faire 75 degrés. C'était à peu près un genre de à peine 55 à 60 degrés de différence. Donc, même pour une période tempérée complète de l'année, c'était pas si bon que ça comme pneu non plus.
Non, c'était pas bon. C'est juste que les gens étaient habitués à quelque chose qui était très très so-so, qui était vraiment, tu sais, un peu. Les gens n'étaient pas exigeants parce qu'à un moment donné, tu sais, la technologie, c'est dans tout. Hein. Les autos d'aujourd'hui, à chaque décennie, prenaient, là, je pourrais dire, une technologie qui prenait. Tu sais, l'efficacité était toujours en montée constante au niveau de la tenue de route, l'agilité, la performance moteur, les options aussi, le confort, etc. Donc, imaginez-vous que dans le temps, je ne sais pas si. Écoute, j'aurais dû te la partager, Michel, j'en ai vu une justement, c'était une genre d'analyse d'hiver, de conduite d'hiver, une vidéo que j'ai vue par Facebook. Puis c'était une analyse d'hiver là, avec des. Sérieuse, là, avec un genre de journaliste qui donnait des conseils de conduite en hiver. Puis c'était des images de 1981 des propulsions. Puis écoute, une simple montée d'une gadoue de 2 pouces, puis l'auto était complètement jammé dedans. Tu sais, c'était vraiment compliqué. Je veux dire, à l'époque, là, c'était fréquent d'utiliser ces traction aid qui étaient dans le coffre de la voiture.
Absolument.
C'était parce que le pneu était médiocre, puis l'auto était propulsion. Le moteur était lourd à l'avant et les roues motrices étaient à l'arrière, pas assez de poids. Donc, les gens fallaient constamment s'adapter, genre mettre des poches de sable dans le coffre de l'auto pour créer un peu de traction. Fallait conduire d'une façon beaucoup plus stratégique, dans le sens que tu sais, pas freiner au mauvais endroit pour pas être pogné, pour pas repartir, éviter une certaine côte, les traction aids étaient tout le temps sortis. C'était vraiment ardu, là. Aujourd'hui, on s'imagine pas, là. D'ailleurs, la traction avant a été inventée un peu pour ça, pour régler ce problème-là d'une certaine façon. Et ensuite, aujourd'hui, ben là, tous les gens veulent acheter des all-wheel drive, donc les tractions intégrales, pour la même raison, en passant. Parce que les gens détestent être en pleine tempête ou dans un ourlet pris. Alors que le monde, la dernière affaire qu'ils veulent, c'est de sortir de l'auto, mais là, c'est la catastrophe. Donc, effectivement, c'est ça la raison de ne pas justement on est comme ailleurs, là, tu sais. Donc, tout ce qui est dans le temps était tolérable ou, tu sais, qui était, ça faisait partie, c'était dans les mœurs. Aujourd'hui, on est ailleurs. Donc, ce fameux pneu-là qui, à l'époque, c'était un classique. On gardait le pneu d'hiver la dernière. C'est comme pour éviter le, de remettre son pneu. C'était sauver un peu de sous, finalement. Ça évitait, justement, d'un changement de pneu. On sauvait là-dessus. Puis, ça épargnait un peu le pneu 4 saisons. Fait que, tu sais, vous voyez un peu où ce que les gens voulaient s'en aller avec ça. Aujourd'hui, comme je vous dis, on est ailleurs. Puis, tantôt, je te parlais du degré mou, prolongement, distance de freinage. Il y avait un autre point aussi que je ne voulais pas oublier de te dire, Michel, c'est que c'est pas un pneu non plus qui a un dessin pour éviter l'aquaplanage. Donc, ce pneu-là, quand il arrive dans une surface d'eau qui est importante, il se met à faire de l'aquaplanage beaucoup plus vite.
Oui, ça, si je ne me trompe pas, c'est comme surtout la genre de fente qui est un peu plus centrale, hein, qui aide pour l'aquaplanage.
Oui, c'est ça. C'est que ça prend des genres de lignes creusées larges puis profondes, longitudinales dans le sens du pneu, avec des petites nervures de côté qui sont quand même bien conçues pour être sûr que l'eau sorte vite. Étant donné que c'est moins de l'eau, mais plus du solide en hiver, la structure et la stratégie est pas la même. Mais en été, c'est ça que ça nous prend. Parce que une surface d'eau, imaginez-vous un peu comme quelqu'un qui fait du ski nautique, là, comprenez-vous, c'est la vitesse à laquelle on arrive dans une surface d'eau peut nous faire lever puis nous faire flotter. Puis si on flotte, on touche pas au fond. Si on touche pas au fond, l'auto n'a plus aucune tenue de route. Fait que c'est un amène l'autre. Là. Donc l'aquaplanage est un des plus grands dangers en été. Puis comme vous le savez, si vous sortez de route en été, vos chances d'être mal en point sont pas mal plus grandes qu'en hiver. En hiver, vous allez arriver dans la neige. En été, vous allez arriver dans la roche, tu sais. C'est pas la même affaire pendant tout.
C'est ça. Puis si vous voyez de l'eau s'en venir, puis vous avez l'impression, oh zut, je vais faire de l'aquaplanage, puis ça vous stresse parce qu'on a l'impression qu'on a perdu le contrôle du volant. Descendez à 70 et moins parce que physiquement, dans les lois de la physique, c'est impossible de faire de l'aquaplanage en bas de 70 km/h.
Ah, ben tu sais, j'ai pas déjà fait le calcul, mais c'est clair et net qu'il y a un prorata, là, puis que c'est sûr que la vitesse, chaque 10 km/h que vous prenez va vraiment amplifier de plus en plus la capacité de faire de l'aquaplanage. C'est sûr et certain là, que ça, c'est vraiment là, le facteur premier. Là. Donc, de diminuer, oui, ça c'est clair. Pas de geste brusque, pas de freinage brusque, parce que le but, c'est d'essayer de reprendre le contrôle, mais par le fait que le pneu va se reposer dans le fond là, pour toucher à l'asphalte finalement. Là. Donc, c'est ça pour les fameux pneus, les pneus qu'on le sait, qu'on est pogné pour pas faire encore. Parce que je sais, là, comme pour ceux qui n'étaient pas au courant, je sais que tout le monde doit l'être, c'est quasiment impossible parce que là, ils se font des conférences de presse 2-3 fois par jour. Quand c'est pas fédéral, c'est provincial. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Puis là, tout le monde sur Facebook répète chaque affaire, puis chaque journal, chaque personne, chaque bien-pensant, puis chaque opinion de chacun des Québécois est redit et re-redit. Fait que j'imagine que vous êtes au courant que dans les services essentiels, au niveau des garages, faut pas faire n'importe quoi. Ils veulent pas qu'on fasse un petit changement d'huile pour rien puis un petit changement de pneu pour rien.
Et parce que normalement, la date aurait été quoi?
Ah, normalement, on est dans les temps. Ça veut dire que la date, c'est le 15 mars. Ça veut dire qu'on a le droit de les mettre, les pneus, depuis ce temps-là. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de les mettre à partir du 15? Non, parce que depuis une couple d'années, les printemps sont tardifs. Ça veut dire qu'il fait froid quasiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, cette année, le fin mars a quasiment été plus froid que notre mois de février. Là.
Ben, là, c'est... Avec notre tempête de neige de 2-3 jours. Là,
c'est ça. Mais la fameuse tempête de la Sainte-Pat, c'est un classique. Mais on se demande, on dirait qu'il y a toujours un peu plus tard qu'avant. Là. Ça va peut-être revenir. En tout cas, peu importe. Pour l'instant, cette année, il a fait froid. Tant mieux. Ça veut dire qu'on était pogné pour attendre pareil. Mais... sur papier, on arrive dans la période que ça commence à être intéressant de le faire, mais on n'a pas le droit, il faut attendre.
Parfait.
C'est sûr que là, sur place, si vous avez un besoin quelconque, puis ça, c'est pour votre sécurité, on va le faire, mais il faut que ce soit nécessaire. On se fait quand même surveiller. Fait que comme vous saurez, là, c'est sûr, on a tellement entendu parler, on est essentiel, mais jusqu'à un certain point. Il y a des restrictions, finalement.
Parfait. Et si on y allait maintenant avec ton deuxième sujet?
Oui, sujet qui est quand même en lien direct avec ce fameux ce fameux virus-là, là, qui était incroyable, qui était un cauchemar pour plusieurs. En même temps, bon, je vais essayer d'être positif parce que ceux qui me suivent ont peut-être un peu trouvé que d'un fois j'étais négatif un peu là-dessus. J'ai trouvé que d'un fois le confinement était peut-être un peu excessif dans certains cas. Encore là, je sais qu'il avait l'air nécessaire dans certains points aussi. C'est pas là-dessus que je veux revenir. Je veux y aller un petit peu avec le petit côté. Certains trucs à faire attention au niveau de l'auto. Parce que là, il y a certaines personnes que financièrement, ils hésitent. Soit qu'ils disent, hey, je rachète-tu ma location? Je vais-tu me chercher une auto neuve comme j'avais pensé? Ça a tellement changé. Est-ce que, tu sais, comprends-tu? Il y a plein de gens qui ont des questions. Puis, ça s'en vient. Tu sais, mettons, soit que la fin de leur contrat arrive ou ils ont des choix à faire. Fait que là, c'est sûr que financièrement, je vais essayer comme de donner un ou deux conseils pour ce que j'en sais. Parce que là, je veux. Comprenez-vous, je ne donnerai pas de conseils de placement, mais au niveau finance automobile, j'en sais quand même un bout. Là. Puis, c'est quand même intéressant là-dedans de faire attention à ça parce que c'est un des gros pièges d'un budget, c'est l'automobile. Il y a beaucoup de monde qui peuvent s'enliser avec l'automobile plus qu'avec d'autres postes de dépenses. Puis, dans ce cas-là, ben regarde, mettons, on prend quelqu'un là, qui hésite présentement. Ce que je veux lui dire, c'est que l'automobile, faut pas qu'ils prennent des risques inutiles pour ça présentement. Je veux pas avoir l'air pessimiste, mais la crise qu'on a là présentement ne ressemble pas aux dernières qu'on a eues. Elle va frapper plus fort que 2008. Ça faisait déjà longtemps, bon, que le monde disait, on va-tu avoir une crise? Ça fait déjà 12 ans que ça va bien. Normalement, ça va bien 8-9 ans. Là, le monde se considérait chanceux. Puis en même temps, là, ça a frappé deux fois plus fort. La question, bon, ça, je veux pas faire l'analyse ou ça changera rien, on est dedans. Là. Sauf qu'aujourd'hui, quand je dis pas prendre des risques inutiles, c'est que je pense pas que l'auto neuve soit un deal ou quelque chose de vraiment génial. L'auto a toujours été la même chose, ça veut dire que ce n'est pas un investissement, ce n'est qu'une dépense. Un investissement, encore là, comme je vous dis, c'est même pour un taxi, je comprendrais, là, il considère l'auto comme un revenu parce qu'il travaille avec. Mais encore là, je vous dis, c'est une dépense, une voiture. Fait qu'il faut que vous considériez sa nécessité, son existence sur le même plan que vous faites votre réflexion quand vous achetez un frigidaire. On achète-tu un frigidaire pour faire un chaud de boucan? Non, un frigidaire, ça réfrigère les aliments, ça les met à 3-4 degrés Celsius. Quand j'ouvre la porte, ça l'ouvre une lumière, je choisis mes ingrédients. Puis quand je le referme, il repart la machine pour espérer remettre le tout à 3-4 degrés Celsius. On n'en demande pas plus.
Puis je me suis toujours demandé si la lumière fermait réellement.
C'est facile, il y a un piton sur le bord que tu peux peser toi-même pour vérifier. Mais effectivement, c'était pas dans mes inquiétudes premières au niveau du frigo. Mais c'est parce que le nord-américain moyen, l'automobile, c'est comme c'est toute sa vie où c'est très important, où il y a comme toujours de quoi avec ça de super. Ça vient chercher les gens. Il y en a même qui vont acheter la totale parce que ça leur donne la virilité. Puis tu sais, d'un coup, t'entends un gars, il est comme tout, je pourrais dire, chamboulé parce qu'à cause des enfants, il est obligé de passer à la minivan alors que dans le fond, c'est pas si grave que ça. Là. C'est qu'il est rendu. Tu sais, ça prend l'auto utile qui fit avec ce qu'on fait. Là. Ça va peut-être en faire réfléchir d'ailleurs qui ont des pick-up mais qui font juste l'épicerie avec, là, qui travaillent même pas avec la camionnette. Quoique ça va être les premiers à me dire que le gaz est à 80 cents. En tout cas, ça c'est un autre dossier. Puis ça pour vous dire que le taux, il faut faire attention, c'est vraiment quelque chose qui ça dévalue vite. C'est pas une œuvre d'art de Van Gogh, c'est pas une maison en briques, c'est pas un lingot d'or, c'est quelque chose qui déprécie. Un, parce que il y a des technologies dedans, ça évolue, puis à un moment donné, l'auto, oups, ça devient comme un petit peu moins à jour. Il y a le fait qu'elle use aussi. En plus, au Québec, elle touche aux selles de voirie, fait qu'elle évolue plus vite qu'elle dans une autre place. Puis cette auto-là, par défaut, vous l'utilisez, comme je vous dis, ça dévalue. Fait que vous pouvez pas considérer ça comme un super, une façon d'aller améliorer quoi que ce soit. Donc, si jamais il n'y a pas de surplus d'argent de votre côté, de liquidité énorme, reconsidérer l'achat pour le taux neuf. Par contre, vous êtes craqué, vous dites « Christian, c'est pas toi qui va décider pour moi, j'en veux une pareille. » Puis vous me dites « ben l'économie, c'est important, encourager local. » Ah ah! Ben là, je me suis sorti une petite liste parce que, Michel, une des choses qui est importante, ça va être d'encourager local pour ce qui est de la survie de l'économie canadienne. Parce que chaque pays va vouloir faire du protectionnisme. Tout le monde va vouloir encourager local avant. Ça va peut-être même nous faire justement peut-être faire moins d'exportation, je veux dire, ailleurs. Tu sais, ça va brasser. Chaque pays va vouloir améliorer sa propre condition avant d'améliorer celle des autres. Il va falloir qu'on s'entraide un peu. Donc, si tu me permets, je vais dire comme quelques endroits où ce qu'il y a vraiment ou réellement de la production d'auto au Canada. Parce que c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup d'auto qui sont construites au Canada. Okay. Puis si vous aidez en achetant un auto d'un concessionnaire, ben à part un peu aider le concessionnaire au coin de rue, en gros, l'auto est faite ailleurs la plupart du temps. Donc, vous amenez de l'argent ailleurs, puis ça avantage une autre usine. En gros, le meilleur de tous les scénarios, c'est si votre vendeur, votre concessionnaire vient d'ici puis que l'auto vient du Canada, écoute, c'est génial. Là, c'est vrai qu'on va comme conserver tout l'argent à l'intérieur du pays. C'est ça qui serait hot. Dans un cas, je vous fais rapidement, parce que comme je dis, je ne veux pas m'étirer avec ça, mais c'est pas une grosse liste, fait que t'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà parlé contre parce que je trouve que c'est pas les meilleurs en termes de fiabilité, mais garde, écoute, il faut ce qu'il faut. Quelqu'un pourrait acheter. Je fais la liste rapidement, vous allez voir. Il y a Fiat Chrysler Canada qui fait le Chrysler 300, le Dodge Challenger et le Charger à Brampton, Ontario. À Windsor, ils font le Grand Caravan, la Pacifica hybride rechargeable. Ford font à Oakville le Edge, le Flex, le Ford GT, édition limitée, le MKT et le MKX dans le Lincoln. À Oshawa, General Motors font le Impala, Cadillac XTS, le Silverado, le Sierra. Après ça, il y a à Ingersoll le Equinox. Le Honda fait à Allison, Ontario, le Civic et le CRV. Et Toyota, en finissant, fait à Cambridge le Corolla et à Cambridge Sud le Lexus RX350, RX450 hybride et à Woodstock le RAV4. Donc, ça, c'est la fameuse liste de ce qui est fait au Canada. Si c'est pas là-dedans, il n'est pas fait ici. Puis, en même temps, ben, vous pourriez le demander au moment de l'achat pour être sûr que c'est vraiment le cas. Parce que des autos, c'est pas parce qu'il y a un RAV4 qui est fait en Ontario que toutes les RAV4 sont faites là, détrompez-vous. Là. Mais je vous dis ça parce que quelqu'un qui aurait vraiment la conscience locale développée, ça serait ça qu'il faudrait faire.
Wow! Écoute, tu m'en as appris plusieurs dans la liste que tu as donnée. Entre autres, j'aurais jamais misé sur le fait que Honda et Toyota auraient pu avoir des véhicules en construction ici dans certains modèles.
Ça, c'est ce qui est intéressant. Je te fais une petite anecdote. À un moment donné, il y avait eu une petite crisette politique aux États-Unis, puis il y a des gens qui avaient chiolé justement à cause de l'encouragement de telle compagnie au lieu de telle compagnie. Il y avait eu une crise avec l'automobile, puis il y a des gens qui s'étaient plaints que, mettons, d'encourager local ou d'encourager un tel constructeur au lieu de Toyota, par exemple. Puis, il s'était fait répondre comme de quoi qu'il y avait plus d'usines ou d'encours. Tu sais, il y avait plus. Finalement, Toyota engageait plus aux États-Unis et faisait plus vivre de monde qu'un des autres grands non-américains que les gens étaient convaincus que c'était eux qui encourageaient le plus d'Américains. Je ne sais pas si tu me suis. Là.
Oui, oui, oui.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faut faire attention. C'est pas un nom de l'entreprise ou du siège social ne veut rien dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui font participer des gens dans plein d'usines, dans plein de villes. Fait qu'il faut vérifier, dans le fond. C'est ce que je veux dire.
Parfait. Eh bien, Christian Duval, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. C'est très apprécié et on va pouvoir continuer la même chose avec de nouveaux sujets la semaine prochaine.
Yes. Puis, en terminant, juste une dernière mini-phrase.
Oui.
Si on garde la voiture plus longtemps, nécessairement, il y a un lien direct, si vous voulez pas vous faire pincer, avec l'entretien. Vous pouvez pas entretenir au minimum de façon bâclée puis de penser que vous allez avoir une certaine rentabilité ou de pas être mal pris avec des nouveaux problèmes de si jamais l'entretien était mal fait. Donc, le fait de moins changer souvent amène un nouveau besoin. C'est le besoin d'entretenir. Fait qu'oubliez-le jamais.
Parfait. Ben, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine. Et voilà, vous pouvez suivre Christian Duval, entre autres sur Facebook, avec la capsule à Chris. Et on peut le rejoindre également au Garage Charlebourg Certipro. Garage Charlebourg Certipro, mécanique générale dans l'automobile recommandée CA et certifiée clé verte. Votre auto entre bonnes mains, 514 boulevard Louis XIV à Québec. Vous êtes à Prends ton gaz égal avec Michel Tédalère. Et au retour de la pause, on parle avec notre psychothérapeute Nathalie Rivard. Et on répondra à vos questions. Restez là.
Salut, ici Mangeur de rêve et vous écoutez Nike Radio.